Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est une autre émission chargée qui s'annonce, elle peut contenir des infos, mesdames, messieurs, tellement chargée que j'ai pris de l'avance et je me suis usé la voix avant même de commencer l'émission. Non, mais c'est pas des farces. Mais c'est parce que c'est la saison, hein, tu sais, un changement entre l'hiver et le printemps qui s'en vient tranquillement pas trop vite, si bien que la voix est un petit peu éraillée par un rhume qui s'installe, mais je pense que ça va tenir pour toute l'émission. Sébastien Boucher, que vous avez entendu rire, comment vas-tu?
Très bien. Toujours heureux de te retrouver, Simon.
Absolument, avec un autre rendez-vous pour peu contenir des infos. Et elle sera encore très chargée cette semaine, cette émission-là, puisque nous recevrons, entre autres, au cours de notre deuxième portion de l'émission, c'est-à-dire dans le deuxième quart d'heure tout à l'heure, Monsieur Scott Hutton du CRTC. Vous savez ce que c'est que le CRTC? Oui, peut-être, pas du tout. Alors, on va démystifier ce qu'est le CRTC. On entend parfois parler de cet organisme-là, on ne sait pas trop ce que c'est, alors on va démystifier ça tantôt. Tu vas nous parler de quelque chose de bien spécial, toi, Sébastien Boucher. Tu vas nous parler de, je comprends pas trop, désextinction d'espèces animales, c'est ça?
Désextinction,
ok, excusez-moi.
Ouais, c'est pas une extinction. Mais une désextinction, ben oui, parce que là, il voudrait faire un retour du mammouth. Il en avait parlé déjà il y a un bout de temps de cela. Okay. Il y a eu des avancées là concernant ça. Je vais vous expliquer comment on veut s'y prendre pour faire réapparaître le mammouth sur Terre.
OK, super. Tant qu'à parler d'animaux, de ramener à la vie des animaux qui sont disparus depuis des siècles, même des millénaires dans certains cas, je vais vous parler de nos petits animaux de compagnie et de leurs morsures. On a tendance des fois à négliger les morsures de nos chiens et de nos chats. On se dit « Ah, c'est pas grave, ça va guérir », mais je vais vous raconter tantôt que ça peut prendre le mauvais bord et il faut peut-être pas négliger ça, contrairement à ce qu'on pense. On aura l'occasion également de parler plus tard dans l'émission d'un iceberg, mais un peu particulier.
Le plus gros du monde, puis c'est parce que récemment, là, il aurait pu avoir un événement qui aurait pu virer en catastrophe. Okay. Ben, en tout cas pour certaines faunes. Hein, mais on en reparlera, c'est le plus grand iceberg du monde, A23 petit A. Et heureusement, on a évité le pire récemment.
Ah oui, OK, alors on va parler de ça tantôt. On aura également un petit mot ou deux pour vous autres sur les rendez-vous de la francophonie 2025. Et on va clore avec un quiz sur les présidents américains.
Oh!
Ah, ça m'a fait ses
dents. Ça me fait peur. C'est moi qui réponds aujourd'hui, pas sûr. Oh, la politique américaine, je la connais pas tant.
OK. Ben alors, on va tester tes connaissances et on va tester les connaissances des gens parce qu'il y aura des choix de réponses et il y aura quelques questions qui vont être répondues par vrai ou faux. Donc, ça devrait pas pire aller. Tu sais, c'est pas comme
à
si
l'habitude,
C'est pas trop comme si je te demandais, par exemple, de me nommer le premier président américain puis je te donnais pas de choix de réponse, mettons. Tu sais,
c'est vrai. Ouais. Mais quand même, c'est bien pour apprendre tout plein de choses. Donc, aujourd'hui, je vais en sortir grandi et je vais connaître plus l'histoire des présidents américains, je présume.
OK, parfait. On va commencer d'abord avec ton affaire d'espèces d'animaux là qu'on veut ramener à la vie dans une certaine mesure.
La désextinction des mammouths. Ben oui, ça a l'air que c'est des souris laineuses qui préparent le retour du mammouth. Mais là, on peut y croire ou ne pas y croire. On n'est pas rendu à voir le mammouth dans notre cours, mais quand même. C'est une compagnie Colossal Biosciences qui vient de franchir une grande étape là, dans son fameux projet de faire un être un mammouth. Et ça, j'en avais parlé à la radio, moi, il y a un an ou deux, là. Puis on revient avec ça. Ça m'avait fait rire quand j'avais vu qu'il pourrait y avoir un retour du mammouth, mais là, est-ce que ça va se concrétiser, cette affaire-là? Ben on va voir. On modifie des gènes, fallait s'y attendre, c'est de la modification génétique. C'est 7 gènes chez les souris, les fameuses souris laineuses, et la manipulation a été réussie, et ça pourrait servir à préserver des espèces menacées aussi, toute cette histoire-là. Donc, je vais vous dire de quoi il s'agit. Est-ce que vous pensez, toi, penses-tu qu'on pourrait revoir les mammouths laineux qu'on appelait Mammutus primigenius, le nom scientifique? Croirais-tu à ça, en revoir sur Terre par manipulation génétique, Simon?
Ben, j'imagine qu'il doit avoir quelque chose d'assez similaire avec les éléphants, entre autres choses, ou quelque chose dans le genre, puis qu'en manipulant les gens, ouais, sais-tu, je suis pas convaincu que ça va fonctionner à merveille, parfaitement, mais j'aurais tendance à croire que ça se peut.
Ouais, ça se peut. C'est l'ambition, en tout cas, de Monsieur George Church, qui est un ancien généticien à l'université d'Harvard.
Bon, OK.
Ça, c'est notable en passant. Mais il cultive ça depuis de nombreuses années, puis il a même fondé en 2021 la société dont je t'ai parlé, Colossal Biosciences, qui a pour but précisément de faire apparaître le mammouth. Et il y a quelques années, la quête relevait de la science-fiction, là, plus que de la réalité, mais les récentes découvertes, puis les progrès qu'il y a eu en biotechnologie, ça rend ça en partie accessible, on va dire. Donc, le 4 mars dernier, ça fait pas longtemps, la compagnie Colossal Biosciences qui a annoncé avoir réussi à créer des souris laineuses, des rongeurs modifiés génétiquement pour être dotés de caractéristiques de résistance au froid, qu'on pouvait retrouver chez les mammouths. Donc ça, c'est une prouesse, premièrement, mais ça garantit pas le succès final de avoir des mammouths. Puis ça soulève des questions éthiques aussi, toute cette histoire-là, ça, bien sûr, il faut s'y attendre. En modifiant les fameux 7 gènes dont je t'ai parlé, l'équipe scientifique a donné naissance à ces souris au pelage qui est épaissi, texture modifiée aussi, puis ils sont de couleur rousse. Puis pour identifier les gènes responsables des caractéristiques de résistance au froid du mammouth, ben les chercheurs ont analysé un jeu de données génétiques issu de 121 génomes de mammouths et d'éléphants. Hein, tu mentionnais l'éléphant qui ressemble un peu. Puis parmi eux, il y a des génomes de mammouths laineux, colombiens et des steppes qui couvrent une période allant de 3500 ans à plus de 1,2 million d'années en arrière. Donc, l'équipe a ciblé une dizaine de gènes qui ont évolué de manière significative par rapport à l'éléphant d'Asie, qui est son plus proche cousin vivant, en fait, du mammouth. Puis, grâce à une approche qui combine trois techniques d'édition génomique, les chercheurs ont introduit 8 modifications sur 7 gènes, qui est une tâche vraiment complexe, là. Ça se fait pas les doigts dans le nez. Quand on édite plusieurs gènes en même temps, faut faire face à des défis comme des effets hors cible potentiels, faut livrer les outils d'édition moléculaire au bon endroit, réaliser plusieurs cassures de l'ADN simultanément. Bon, ça a l'air compliqué, mais ça l'est. Ça n'a pas juste l'air. Une responsable du scientifique du projet, Beth Shapiro, expliquait ça encore plus en détail, mais c'est assez complexe. Mais pour contourner ces obstacles-là, les chercheurs ont optimisé la technologie qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Hein, c'est ça qui coupe l'ADN à un endroit précis d'un génome. Puis, on l'a vraiment amélioré. Puis, une des mutations majeures concerne le génome Fibroblast Growth Factor 5. Bon, son inactivation provoque un allongement significatif de la phase de croissance du poil. Alors, c'est pour ça qu'on a trouvé du poil plus épais aussi. Et puis, l'apparition de poils ondulés, texture laineuse, proche de celle du mammouth chez ces souris sauvages. Puis, pour reproduire la pigmentation plus claire qu'on observe chez certaines dépouilles de mammouth, parce qu'on en a retrouvé hein, des dépouilles en Sibérie, ben, on a modifié le gène responsable de la production de mélanine hein, pour changer la couleur. Bon. Puis par ailleurs, l'introduction d'une version un peu tronquée du gène associé au métabolisme des lipides a induit des modifications du poids corporel aussi. Alors, des toutes sortes de modifications qui ont permis de donner naissance à la Colossal Woolly Mice. Bon, c'est la première chimère vivante conçue pour exprimer plein de traits et des adaptations au froid qui sont présentes chez les mammouths. Et à part le spectaculaire aspect de ces souris-là, ben, les naissances permettent de valider un outil de biotechnologie qui est utilisé par les chercheurs. Puis les naissances de ces souris-là, laineuses, ben, c'est une étape importante pour la compagnie parce que on veut redonner naissance à des espèces disparues. Puis pas seulement le mammouth laineux, on parle aussi du tigre de Tasmanie ou encore le dodo, qui est un oiseau de l'île Maurice qui a disparu à la fin du 17e siècle. On voudrait le faire réapparaître. Moins de 100 ans après l'arrivée des Européens, il avait été victime de la chasse, l'oiseau, dodo, puis la destruction de son habitat, puis aussi le pillage des nids par les rats, les chiens, les cochons qui avaient été introduits par les marins. Donc, on pourrait faire peut-être réapparaître un oiseau, mais tout n'est pas joué. Il y a beaucoup de difficultés là dans cette histoire de désextinction d'une espèce. Pour le mammouth laineux, comme par exemple, ce sera seulement un hybride issu d'un ovule d'éléphant d'Asie, un peu plus gras et poilu qu'un éléphanto. Puis, il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que on a vraiment un intérêt à mener à bien cette aventure-là? Est-ce que ça vaut la peine de faire réapparaître? Il y a de nombreux scientifiques qui disent que non. Ben. Ça vaut pas la peine d'aller là-dedans. Mais les percées qu'on réalise dans tout ça, la compréhension des liens entre les variants génétiques, les traits physiques, dans l'édition génétique multiple, ben ça a des applications bien au-delà de la désextinction des espèces. La scientifique Beth Shapiro disait ça. On peut utiliser les mêmes outils qui doivent être créés pour la restauration des mammouths, des dodos ou n'importe quel, pour restaurer la biodiversité des populations en déclin, puis aider des espèces à devenir génétiquement résistantes aux maladies. Donc, il va y avoir des applications plus pratiques qui pourraient voir le jour. L'histoire de faire réapparaître un mammouth, ben, peut-être pas, mais tout de même, ça amène des avancées.
Ben moi, tant qu'ils me font pas un Jurassic Park 3.0 là, puis qu'ils perdent le contrôle là, quand même là. Merci Sébastien. On va vous glisser un mot ou deux sur les rendez-vous de la francophonie 2025. Vous savez que ça bat son plein cet événement-là jusqu'au 31 mars prochain, 27e édition. Le thème cette année, c'est cultive tes racines. Évidemment que les rendez-vous de la francophonie, je pense que je vous apprends rien. C'est une façon de célébrer notre langue, notre culture, mais c'est aussi l'opportunité pour ceux et celles d'entre vous qui nous écouter et qu'il y a des anglophones et francophiles de parfaire votre apprentissage de la langue française puis de vous intéresser à la langue de Molière, pour ainsi dire. Parce que vous allez trouver sur le site web des rendez-vous de la francophonie pas mal de matériel didactique et pédagogique pour apprendre le français ou pour parfaire. T'sais, on a l'impression que c'est juste destiné aux enfants d'âge scolaire, le matériel qu'on trouve sur rvf.ca, mais ça peut servir également pour des anglophones et des francophiles qui s'intéressent à la langue française. Allez retrouver là des jeux linguistiques sur la grammaire, l'orthographe, la synthèse, le vocabulaire. Tu sais, on dit regarder des films dans une autre langue, ça aide à apprendre la langue, mais faire des jeux de temps en temps, hein, d'apprendre de façon ludique, ça peut être une bonne chose également. Bref, il y en a pour tout le monde. Si vous êtes francophone, allez-y, fêtez. Si vous êtes anglophone et francophone, ben allez-y également, puis peut-être que vous allez apprendre à encore aimer davantage la langue française. Oui, Sébastien?
Oui, ben je voudrais rajouter aussi que pendant justement les rendez-vous de la francophonie, là, il y a tous les films gratuits, les films de documentaires, d'animation hein, qui sont présentés, puis il y a des projections gratuites à grandeur du pays. Alors, tout ça, vous pouvez le retrouver aussi sur rvf.ca dans la section calendrier. On peut même faire des recherches par province pour trouver quelque chose proche de chez vous puis aller voir des belles projections gratuites d'ici le 31 mars.
Dans un tout petit instant, entrevue avec Scott Hutton du CRTC, entrevue qu'on a réalisée hier. On vous fait entendre ça. On va démystifier ce qu'est le CRTC. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Restez là.
Peut contenir des infos.
Il y a un organisme fédéral dont on entend parler à l'occasion dans les nouvelles parce qu'il joue un rôle, somme toute, assez essentiel dans nos vies, mais sans qu'on en soit nécessairement conscient. Et on le connaît finalement assez peu, Sébastien.
Oui, ben c'est sûr, Simon, puis on parle du CRTC, puis même que je sais pas si j'aurais connu le CRTC, si j'en aurais entendu parler, si j'avais pas travaillé en radio. Tu sais, je suis arrivé en radio, dans le monde de la radio, puis là, j'en ai entendu parler. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Alors voilà, le CRTC, on en entend de temps en temps parler pour des questions de télévision, radio et tout ça, puis on va essayer de démystifier ensemble c'est quoi le CRTC, c'est quoi son rôle et... On espère qu'au final, on aura suffisamment piqué votre curiosité à un point tel que vous ayez envie de suivre un petit peu plus ce qui se passe au CRTC, puis peut-être éventuellement de participer. Et pour nous en parler, on reçoit M. Scott Hutton. Il est dirigeant principal consommation, analytique et stratégie au CRTC. M. Hutton, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Monsieur Hutton, merci d'être avec nous. D'abord, commençons avec la grande question. Elle n'est pas à 100$, mais quand même. C'est quoi le CRTC de façon concrète pour monsieur, madame, tout le monde?
Bien, c'est une agence du gouvernement fédéral. On est un tribunal administratif. On va souligner ces mots-là. On y va revenir tantôt lors de l'entrevue. Mais qui réglemente ou supervise tout ce qui est radiodiffusion au pays, mais aussi tout ce qui est télécommunication. Alors, ça a un certain impact dans la radio, la télé, le câble que vous avez chez vous, mais aussi vos services de communication, votre téléphone sans fil, votre service Internet à la maison. C'est des composants. Des choses que nous travaillons dessus à tous les jours.
Pour les gens qui nous écoutent, M. Hutton, là, est-ce que le CRTC les concerne dans leur petite vie de tous les jours?
Effectivement, il faut penser à côté du exemple téléphonie cellulaire, votre service à la maison. On a des activités, des façons de faire pour s'assurer que bon le service soit disponible tout partout ou que le service soit disponible. Vous savez, c'est toujours il y a toujours des régions, pays où on n'a pas accès à la large bande à la maison. On travaille d'arrache-pied à tenter d'aider les entreprises de justement développer des services dans les régions tout partout au pays. On avait même mis lors de nos politiques et nos travaux là-dessus un accent à s'assurer que les communautés en situation minoritaire soient bien desservies et aient un accès priorisé aussi. Fait que c'est toutes sortes de choses qu'on peut regarder. Votre téléphone cellulaire, je sais que les Canadiens, on était inquiets à savoir les prix, s'assurer qu'on peut bien gérer notre portefeuille à la maison. On a travaillé, je sais que tout le monde pense que ça demeure plus cher, mais les prix du cellulaire ont baissé de 50 % au travers des deux dernières années avec certains de nos efforts. Et puis, on met des efforts en place en ce moment pour s'assurer que les Canadiens puissent avoir accès à ces meilleurs prix-là. On a quelques audiences, quelques instances sont importantes pour réduire les barrières pour qu'on puisse justement mieux bénéficier des prix qui sont disponibles.
Monsieur Hutton, même nous autres qui travaillons dans le domaine de l'industrie là, radiophonique, on a l'impression que les dossiers qui sont traités par le CRTC, c'est quelque chose auquel assez peu de gens ont accès, pour ainsi dire, à moins d'être, de faire partie justement de l'industrie. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde, est-ce que ça les concerne, ces affaires-là?
Effectivement, oui, ça concerne tout le monde. Écoutez, votre télé est dans votre salon, vous êtes en région, votre cellulaire est à côté de vous. C'est toutes des choses que avec lesquelles vous vivez au jour le jour. Certes, ça peut paraître compliqué, puis on l'a probablement rendu compliqué avec les années. On s'attend pas à lorsqu'il y a un débat sur comment Bell et Rogers interconnectent leur réseau, que le, tu sais, monsieur, madame, tout le monde s'implique. Mais lorsqu'on veut regarder nos politiques, à savoir, bon, mais qu'est-ce qui est important? Voulez-vous avoir des nouvelles locales qui représentent votre région? Ben, c'est des choses qui sont d'intérêt à tout le monde. C'est à nous aussi de changer, d'évoluer et de s'assurer qu'on puisse justement aller chercher les commentaires, poser des questions dans une forme plus commune, d'être plus présent avec toutes sortes de groupes, de modifier nos façons de faire aussi pour aller chercher. Tu sais, on n'a pas besoin, oui, pour que les réseaux s'interconnectent, mais je veux les avoir à bon prix, ou je veux avoir des nouvelles locales de chez moi, ou j'ai des opinions sur Radio-Canada. C'est toutes des choses qui sont importantes pour nous, un peu parce qu'on est le fameux tribunal indépendant. On n'est pas un ministère. Faut faire des instances, c'est comme une petite cour. Il faut avoir justement donné la chance à tout le monde sur lequel on va imposer des règlements de commenter. Mais avant de pouvoir faire ces règlements-là, c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que les Canadiens ont de besoin, qu'est-ce qui pourrait les aider au jour le jour pour participer à la société.
Pouvez-vous nous donner des exemples, des dossiers, par exemple, sur lesquels il y aurait des citoyens canadiens qui auraient été appelés à participer récemment? Encore, c'est arrivé certainement?
Oui, ben il y a d'innombrables instances. Il y en a qu'on a faites récemment. On peut penser à la mise en place du service 988 pour qui aide les gens en période de détresse et prévention du suicide. Ben s'assurer justement que si vous êtes en Alberta et un francophone, ben qu'on vous réponde en français. C'est les genres de choses qui ont été indiquées que ça c'est très important. Puis c'est des règlements qu'on a mis en place pour le faire. On se lance un peu dans le 911 aussi, s'assurer, tu sais, on est en période de crise, là. Il y a pas de moment d'incertitude, là. Il faut s'assurer qu'on réponde et qu'on se comprenne bien tout de suite. Fait que ça, c'est toutes des choses qui ont été rendues très claires par des interventions de Canadiens qui souvent ont vécu des situations malencontreuses, mais c'est des choses qui ont un gros impact chez nous pour justement pouvoir changer les choses puis s'assurer qu'on reçoive le service qui est important pour nous.
Et monsieur Hutton, comment on fait pour les consulter, ces gens-là? Est-ce que c'est, là, je pose des questions comme ça, est-ce que c'est par exemple des panels de discussion? Est-ce que c'est des sondages? Est-ce que c'est des appels à participation publique? Comment on s'y prend au juste?
Ben, il y a toutes sortes de méthodes qu'on tente avec notre nouvelle présidente, Vicky Treaty. C'est quelque chose qui est très important pour elle, de bien desservir les Canadiens, nous tous à la maison, et un peu moins simplement servir le côté compliqué ou le côté arrière-plan des entreprises qu'on réglemente. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant par notre nouvelle présidente. Et on fait toutes sortes de choses. Oui, on a nos sondages qu'on fait de façon annuelle. On a des sondages qu'on fait de fonctionnels ou, tu sais, dépendant de quelle instance qu'on fait. On développe de plus en plus, écoutez, avec les groupes, je pense les groupes de radio communautaire, vous participez beaucoup avec des groupes de discussion. Ça fait une dizaine d'années qu'on a un groupe de discussion pour justement discuter des choses qui sont importantes pour vivre dans une langue minoritaire, dans un endroit majoritaire, que ce soit l'anglais au Québec ou le français dans le reste du Canada. C'est des groupes de discussion. On met en place beaucoup plus, juste même nos instances, parler de façon plus commune, avoir, tu sais, pas demander, bon, quel règlement qu'on devrait mettre en place pour s'assurer que les conditions de licence des radios communautaires du pays produisent des nouvelles. C'est poser la question, qu'est-ce que vous voulez que la radio chez vous vous donne? Des nouvelles, la musique, c'est de se changer aussi pour rendre ça plus accommodant au commun des mortels. On va avoir plus de groupes de discussion. On a parti un groupe de mobilisation, exemple, pour les groupes côté langues officielles, qui va être beaucoup plus présent, qui va développer justement des liens avec plus en plus de groupes, pas juste, tu sais, les groupes culturels avec qui on a une très bonne relation, mais aussi les groupes qui desservent toutes sortes d'autres sujets, les municipalités, les groupes qui aident nos aînés, qui aident nos immigrants. C'est toutes des choses qu'on tente de mieux développer pour justement aller chercher le son de cloche un peu moins formel, mais pour savoir qu'est-ce qui est important pour les Canadiens.
Mais justement, moi, si par exemple, moi, je m'intéresse au CRTC, mais en tant que citoyen, là, mettons, quelqu'un qui est pas dans l'industrie, pourquoi ça serait important que j'aille participer aux instances publiques? Donnez-moi un exemple d'impact concret que ma présence peut amener parce que je m'implique dans n'importe quelle des instances publiques là, du CRTC.
Ben, écoutez, on est en train de mettre en place tout un nouveau règlement, une nouvelle génération, je pense, de réglementation et de politique suivant la modernisation de la loi sur la radiodiffusion pour embarquer, exemple, les streamers. Les Netflix, les Prime de ce monde dans notre système. Bon, mais qu'est-ce qui est important pour nous, tu sais, le reflet francophone, le reflet des classes, c'est toutes des choses que, tu sais, c'est peut-être très loin de des maisons mères de ces entreprises-là de penser à ça, mais c'est à nous, notre responsabilité au CRTC d'y penser, mais ça nous aide énormément que des groupes d'artistes, que des gens de diverses communautés viennent nous dire « Oui, j'aimerais savoir des nouvelles, c'est plus important d'avoir des nouvelles que d'avoir de la musique ou c'est plus important d'avoir quelque chose qui reflète ma communauté, des discussions. » C'est toutes des choses qu'il faut entendre des Canadiens, et puis c'est très important dans ce contexte-là parce que on fait des réformes aujourd'hui qui sont probablement générationnelles.
Et vous avez mentionné les CLOS, mais juste comme ça, là, pouvez-vous juste nous dire qu'est-ce que c'est? C'est pas tout le monde qui serait familier avec le terme.
C'est essentiellement, c'est les groupes, c'est les gens qui utilisent le français ailleurs, à l'extérieur, au Québec. C'est les gens comme moi qui est anglophone du Québec, qui justement vit dans une situation où ce que on est entouré de l'autre langue, mais on veut défendre notre culture, on veut s'assurer que notre langue et nos traditions passent au travers du temps, qu'on les passe à nos enfants, qu'on les passe à nos communautés. Fait qu'essentiellement, c'est ça le terme technique pour référer à nous tous là, qui vivent de cette façon-là. C'est puis le côté culturel est très, très, très important, tout comme le côté télécommunication. S'assurer que le réseau de télécommunication vous serve en français, c'est aussi important.
Communauté de langue officielle en situation minoritaire. C'est voilà, Éclos.
J'essayais de le dire autrement que...
Ben oui, absolument. Ben oui, ben vous avez bien raison. Et M. Houghton, en terminant, je vous cacherai pas que la raison pour laquelle on s'entretient avec vous aujourd'hui, c'est parce que il y aurait peut-être moyen là, d'embarquer davantage les gens dans les processus du CRTC et tout ça. Comment on fait là, pour s'informer justement de ces instances publiques et comment on fait pour participer au final comme citoyen, citoyenne canadien?
Écoutez, nous on tente de mieux faire, certes, mais notre premier véhicule, certes, c'est notre site web là, tu sais, un Google CRTC, notre site web est là. Dès la première page, on voit c'est quoi les instances qui sont ouvertes. On tente de faire des efforts naturellement lorsqu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus où on a réellement besoin de l'implication des Canadiens, monsieur, madame, tout le monde. On tente aussi justement de faire une page dédiée avec des mots plus commun, une meilleure explication à savoir comment participer. On peut nous écrire, on peut envoyer des vidéos, c'est toutes sortes de choses. Là, on tente justement dans ces cas-là d'avoir des groupes de discussion avant que le tout soit trop formel ou ce qu'on peut juste engager avec les gens. Fait que c'est toutes des choses réellement qu'on tente de travailler. On a une nouvelle équipe de mobilisation pour les CLOSM qui vont justement, qui sont mandatés d'être présents, d'accompagner les gens au travers de ce processus-là. Ça va être très bien indiqué comment on va pouvoir les rejoindre et comment, tu sais, réellement, c'est l'opportunité de réellement de parler à quelqu'un, là, y voir quelqu'un à l'autre bout de la ligne qui va soit interagir avec vous de façon de vive voix ou y voir un nom l'autre côté de ça. Fait que c'est un peu ça qu'on tente de faire. Ces gens-là vont être présents dans les diverses communautés. Ils vont aller aux conférences. On va tenter justement aussi d'avoir des meilleures listes pour rejoindre différentes personnes et d'être plus présents pour que les Canadiens puissent s'informer un petit peu plus de nous et participer un petit peu plus en bout de ligne.
Intéressant. Si vous avez un service de téléphonie sans fil qui fonctionne par chez vous, puis si vous avez des chaînes sur votre distributeur, votre câble distributeur, comme on dit, ben c'est en partie à cause du travail du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. On vient de démystifier ou un petit peu de jeter de la lumière sur un organisme qui est un petit peu méconnu, faut se le dire, le CRTC. Monsieur Scott Hutton, dirigeant principal consommation analytique stratégie au CRTC. Merci beaucoup, Monsieur Hutton.
Merci à vous et merci à vos auditeurs.
Avertissement. Cette émission peut contenir des infos.
Alors, on s'attaque à la troisième portion de l'émission peut contenir des infos et on va parler cette fois-ci de quelque chose de gros. Mais attention, oui. De très gros. T'sais, c'est plus gros que le garage d'Elvis Gratton, là, tu sais. Quand tu te souviens, tu sais, Elvis qui disait
un gros garage.
Un gros garage. Ben là, tu vas parler d'un iceberg, un gros iceberg.
Oui, puis c'est ça, souvent les icebergs sont nommés par des lettres, des chiffres, là, c'est grand A, 23, petit A, celui-là, mais c'est le plus gros au monde,
okay.
Donc on aurait pu lui donner peut-être un nom, mais c'est ça, il est arrivé quelque chose récemment, il s'est immobilisé à 70 kilomètres de l'île de Géorgie du Sud, puis il y a des chercheurs qui avaient peur qu'il entre en collision ou qu'il s'échoue dans les eaux moins profondes à proximité de l'île, puis ça aurait été grave, ça aurait perturbé l'alimentation des manchots, des phoques qui sont là. Alors, plus gros iceberg du monde qui semble s'être arrêté à plus de 70 kilomètres d'une île isolée de l'Antarctique, ce qui pourrait permettre d'éviter une collision redoutée avec une grande zone majeure de reproduction de la faune et de la flore là-bas. Donc, heureusement qu'il s'est immobilisé. Un immense plateau de glace, hein, puis tu l'as dit, c'est une superficie, là, d'après toi, le plus gros iceberg au monde, Simon, à peu près en kilomètres carrés.
Ah, ça doit être des dizaines de milliers de kilomètres carrés, des centaines peut-être même de kilomètres carrés.
Non, pas tant que ça. T'es allé trop fort, là. C'est 3360 kilomètres carrés.
3360, OK, mais quand même, 3360, oui, oui. Ça fait une bonne île, là.
C'est de la superficie.
Ah, ouais.
Et il pèse, ben là, par exemple, c'est plus de 1000 milliards de tonnes. Alors, il dérivait l'iceberg vers le nord de l'Antarctique, en direction de l'île de Géorgie du Sud. Il avait été emporté par là depuis le mois de décembre par des gros puissants courants océaniques. Puis, depuis le 1er mars, en 2025, là, l'iceberg est resté bloqué à 73 kilomètres exactement de l'île. Puis, si l'iceberg reste échoué, on peut pas s'attendre à ce qui affecte de manière significative la faune locale. Alors, c'est vraiment la bonne nouvelle là-dedans. Dans les dernières décennies, il y en a beaucoup d'icebergs qui ont emprunté cette route-là à travers l'océan Austral, qui se sont brisés, qui se sont dispersés et qui ont fini par fondre rapidement aussi. Alors, ça faisait pas trop de dommages, mais lui, plus gros au monde, s'il avait percuté l'île, là, donc on aurait perdu beaucoup d'animaux. Mmh. Puis les pêches commerciales ont été perturbées par le passé. À mesure que l'iceberg se brise en petits morceaux, ça pourrait rendre des opérations de pêche dans la région plus difficiles et potentiellement dangereuses. Donc, on a vu ça. Mais en revanche, il y a des nutriments qui sont soulevés quand un gros glacier comme ça s'échoue ou par la fonte, ben ça pourrait accroître la disponibilité de nourriture pour tout l'écosystème régional à certains moments. Donc, c'est pas tout le temps que des catastrophes là quand un iceberg s'échoue, mais pour les manchots et pour les phoques aussi, là en certains cas, ça pourrait leur apporter de la nourriture de plus. Mais A23A, qui s'est détaché du plateau continental antarctique en 1986, c'est pas d'hier qui est à la dérive. Il est resté coincé, par contre, pendant plus de 30 ans, avant de finalement se libérer en 2020. Puis là, il a fait un lent voyage vers le nord qui a été retardé par des forces océaniques qui le faisaient tourner sur place un bon moment, là, ce gros iceberg. Puis en janvier, il y a un morceau de 19 kilomètres qui s'était détaché, mais les scientifiques ne pouvaient pas dire quelles conséquences ça aurait puis sur la trajectoire de l'iceberg. Mmh. Selon les scientifiques, si c'est séparé du pôle sud il y a près de 40 ans, on va dire, ben c'est pas directement la faute au changement climatique. Et souvent, on pense que les glaciers, c'est toujours, ils se détachent à cause des changements climatiques, mais les icebergs font partie intégrante du cycle de vie des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland. Puis ils sont poussés dans l'océan par le poids de la glace continentale qui les entoure. Alors, c'est ça qui arrive, puis ils commencent à flotter sous forme de plateforme, puis finissent par se briser. Ils deviennent des icebergs en raison d'une combinaison de flexions, le vent, les vagues, les marées, la fonte des océans. Et puis, en revanche, les observations montrent que les plateformes de glace ont perdu à peu près 6 000 milliards de tonnes de leur masse depuis l'an 2000. Donc, un phénomène qui correspond à peu près à une augmentation de la fonte des plateformes de glace qui correspond à une perte de masse mesurée de la glace au sol au-dessus de l'Antarctique, qu'on attribue au changement climatique d'origine humaine. Mais le gros iceberg, au moins, il s'est immobilisé 73 kilomètres là, de l'île de Géorgie du Sud. Alors, pour l'instant, ben, le pire est évité. Mais on va espérer que des icebergs s'échouent parfois, mais moins gros que celui-là.
Peut-être. Ben, tu sais, ça commence à faire gros pas mal. Là. Croisons les doigts qu'il ne redécolle pas, là, puis que finalement, il aboutisse là où on voudrait pas qu'il aboutisse, hein, parce que ça pourrait avoir, comme tu l'as dit, des conséquences un peu tragiques. Là, il est accroché là, actuellement, mais va savoir, il pourrait-tu recommencer à bouger? Ça peut-tu arriver?
Ben, ça pourrait, certain. L'affaire, par contre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'habitation là. Il n'y a pas des gens qui en seront les victimes, mais les phoques, les animaux comme les manchots, vraiment, c'est important de les préserver. Il en reste plus des tonnes. Puis, on n'aimerait pas qu'il leur arrive quelque chose à cause des glaciers.
Merci beaucoup, Sébastien. C'est rassurant, mais en même temps, on croise les doigts, comme je disais tantôt. On espère qu'il s'est arrêté là, du moins pour un certain temps. Vous savez que nos petits animaux de compagnie, les chats, les chiens, ça arrive des fois qu'ils nous mordent, hein?
C'est sûr.
À force de jouer avec, des fois, tu passes la main en face à ton chat, à un moment donné...
Surtout la bédaine, le chat, je te dis.
Ah oui, la bédaine aussi.
Ouais, mets la main sur la bédaine, tu risques une griffe puis une morsure, c'est pas long.
C'est ça. Alors, quand on les taquine, hein, ça peut arriver de temps en temps qu'ils sortent les crocs, et le but, c'est pas nécessairement de nous faire mal. Tu sais, eux autres, dans leur tête, c'est une réaction tout à fait physique, et ils réagissent à un stimuli, ils veulent défendre et tout ça. Et la morsure peut tout de même s'avérer beaucoup plus dangereuse qu'elle n'y paraît au premier abord. On a souvent tendance à négliger les morsures. On dit, ah, OK, on lave ça puis c'est terminé. Mais aux États-Unis, par exemple, on a documenté que les morsures des petits animaux domestiques représentent 1%, ça peut sembler négligeable, mais c'est quand même ça, 1% de toutes les consultations aux urgences pédiatriques, ce sont des morsures de chats et de chiens qui ont dégénéré ou en tout cas qui ont requis d'avoir des soins médicaux. Et tout endroit confondu à travers la planète, on dit que les chiens causent de 70 à 90 % des morsures. On sera pas surpris, évidemment, les chiens, hein, tu sais, c'est quand même bien équipé en fait de crocs. Les chats causent à peu près d'une place à l'autre entre 3 et 15% dépendamment des endroits. Donc, on parle des morsures, évidemment. Et les rongeurs, les rats, par exemple, nos petits animaux comme ça, alors eux autres, ils sont responsables d'à peu près 2 à 3% des morsures. Et la raison pour laquelle il faut pas négliger une morsure, c'est que il y a un paquet de germes, de bactéries et même de virus qui peuvent être transmis par les morsures des petits animaux. Puis je vous en nomme 2-3 comme ça, juste pour vous faire prendre panique, mais vous conscientiser un tout petit peu à pas négliger ça. Parmi les germes et les bactéries les plus répandues dont on doit se méfier, et quand même, il y en a pas mal apparemment, c'est Pasteurella multocida, qu'on appelle, multocida, là, c'est M-U-L-T-O-C-I-D-A, qu'on appelle le bacille du choléra des poules. Ça, c'est un germe qui a été étudié au 19e siècle par Louis Pasteur. Connais Louis Pasteur? Évidemment, hein? Alors, c'est un scientifique, ma foi, très connu. Pasteurisation, entre autres, on lui doit ça. Il a inventé des vaccins et tout ça. Alors, si les symptômes bénins se résument généralement à des infections cutanées ou encore des abcès, eh bien, dites-vous que les cas les plus graves qui sont dus à cette bactérie-là, la Pasteurella multocida dont je parlais tantôt, ça peut entraîner septicémie, donc empoisonnement à quelque part du sang, si on veut, des séquelles osseuses, articulaires et tendineuses prolongées qui sont fréquentes, donc on peut se retrouver à un moment donné, on fait comme, voyons, ça fait un mois, je me suis fait mordre, puis j'ai encore de la misère à me fermer la main ou encore j'ai encore de la misère à marcher, tu sais, si on s'est fait mordre, par exemple, dans une jambe. Alors, le germe est même quelquefois responsable, on dit, d'infections respiratoires et, dans de très rares cas, la méningite. Et ça, c'est la bactérie la plus fréquemment retrouvée dans les morsures des chats et des chiens. Et ça, c'est à pas négliger. Il y en a une autre bactérie qui est assez répandue. C'est le Staphylococcus aureus. Et lui, il peut entraîner une infection aiguë de la peau et des tissus sous-cutanés, érythème, sensibilité, fièvre légère, augmentation des ganglions et name it, là, il y a toute une série de symptômes qui vont suivre après la morsure qui serait infectée par justement cette bactérie-là. Et la raison pour laquelle on vous dit de pas négliger ça, c'est que la bouche, ou enfin, là, je dis la bouche, la gueule des petits animaux de compagnie, les chats et les chiens, ça n'a pas une aussi bonne hygiène que nous autres. Hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant que de ça.
T'sais, nous autres, on le sait par la senteur.
Ben, c'est entre autres choses, tu sais. Nous autres, on se brosse les dents 2-3 fois par jour, mais les autres font pas ça, tu sais. Puis ils passent le temps à mastiquer ici et là, puis se promènent un petit peu à l'extérieur et tout ça. Donc, c'est un véritable nid à bactéries et à germes. Donc, il y a, là, je vous en ai nommé que deux, mais il y en a tout un paquet d'autres de ces petites affaires microscopiques dont il faudrait se méfier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que je voulais en arriver. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait mordre par son chat ou son chien? D'abord, première chose à faire, faites pas comme si c'était pas arrivé, puis comment, ok, c'est pas grave, là, tu sais, puis on continue à jouer, puis tout ça. Donc, peu importe de quel animal il s'agit, même si c'est le vôtre, c'est encore plus grave évidemment si c'est un chat ou un chien errant, mais même si c'est le vôtre, méfiez-vous d'une morsure, parce que ça peut occasionner, comme je le disais tantôt, oui, des affaires somme toute assez bénignes, comme un abcès ou encore des égratignures, des choses comme ça, mais ça peut entraîner aussi des problèmes beaucoup plus graves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on regarde l'apparence de la morsure. On lave la plaie à grande eau avec du savon. Si c'est possible, ça a l'air niaiseux ce que je vais dire, mais si vous avez un téléphone cellulaire dans la main, ou un appareil photo, prenez donc en photo la morsure de l'animal. Je vais dire, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, c'est parce que vous allez être capable de voir d'heure en heure ou de jour en jour si ça dégénère ou si ça s'améliore. Alors là, vous ressortez la photo, vous regardez, vous dites « Ouais, OK, c'était rouge, mais là, ça commence à être rouge pas à peu près par rapport à ce que j'avais quand je me suis fait mordre. » Donc, si vous êtes capable, prenez une petite photo juste pour comparer, puis tout à coup, vous auriez besoin d'aller à l'hôpital pour y montrer ça au docteur en disant « Regarde, ça avait l'air de ça. » Alors, idéalement, ce qu'on devrait faire, et là, ça, c'est une affaire que bien des gens font pas, c'est laisser saigner la blessure à quelque temps, je dis pas que ça saigne là, abondamment jusqu'à vous vider de votre sang, mais la raison, c'est qu'on va éliminer de cette façon-là la salive d'un animal qui serait rentrée dans la plaie et qui contiendrait ces germes, ces bactéries dont on veut se débarrasser. Une fois la plaie bien nettoyée, on met un petit onguent antibiotique. Hein, mm-hmm. Le fameux polysporin qu'on a pas mal tout à la maison, en tout cas, pour peu qu'on ait des enfants, tout le monde a un tube de polysporin quelque part. Et puis, on couvre la plaie avec ça, et puis un pansement propre et sec. Et surtout, on s'assure que notre vaccin contre le tétanos est à jour. Hein, ça, c'est bien important d'avoir ces vaccins à jour. De toute façon, à travers le pays, je pense dès l'âge de 2 mois, vaccin contre le tétanos, le diphtérie coqueluche tétanos, qu'on appelle. Mm-hmm. Là. Et il y a des rappels là, comme ça qui se font au fur et à mesure où on avance en âge. Et quand il y a du gonflement, quand il y a des rougeurs, quand il y a des douleurs qui sont vraiment, mais vraiment incontrôlées et incontrôlables, ça fait vraiment trop mal, on consulte. Et en terminant, si c'est un animal dont vous connaissez pas le vaccin contre la rage, tu sais, on sait que notre chien, notre chat, il est vacciné contre la rage. Les vaccins sont à jour, c'est pas pire. Mais si c'est le chien du voisin, vous êtes pas au courant, ben consultez, assurez-vous que que cet animal-là a été vacciné contre la rage. Au pis, allez vous-même aller consulter dans une clinique pour vous faire vacciner contre la rage, parce que on sait jamais. Et une chose à faire aussi quand on se fait pas vacciner, mais quand on se fait mordre par un chien ou un chat dont on connaît pas l'état de vaccin, si on veut, s'il a été vacciné contre la rage, c'est qu'on devrait, pour tuer le plus possible les virus, les germes, les bactéries qu'il y a dans la plaie, on devrait désinfecter avec de l'alcool pour pouvoir se débarrasser le plus possible de toute problématique qui pourrait dégénérer. Ça clôt pour ce troisième bloc de l'émission et nous en serons rendus dans un instant à notre dernière ligne droite, devrais-je dire, où on va tester vos connaissances sur les présidents américains.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz. On s'attaque à ce moment-ci de l'émission à un quiz, et un quiz, pas sur n'importe quel sujet, mesdames, messieurs, un quiz sur... C'est dans l'air du temps, je sais pas. Hein? C'est peut-être à cause de la nouvelle présidence américaine qui nous tape à l'œil ou... Non, elle nous tape à l'œil, non, elle nous tape aux oreilles pas mal de ce temps-là du côté de l'information. Alors, on va parler des présidents américains. Tu vas prendre ton score, Sébastien?
Oui, je vais noter mes bonnes réponses qui devraient être assez rares. Je te dirais, je ne connais pas la politique américaine. Malheureusement, c'est une des carences dans ma culture générale.
Ben, écoute, on va voir ça, parce qu'il y a des choix de réponses, puis il y a même des questions à vrai ou faux là-dedans, puis honnêtement...
J'avais été chanceux la semaine passée avec mes choix de réponses, c'était comique, parce que je savais pas les réponses, puis j'avais presque tout bon, j'en revenais pas.
Bon, ben, il y a 13 questions cette semaine. On va commencer avec, d'abord, moi, je pense qu'elle est relativement facile. Qui a été le premier président des États-Unis? Est-ce que c'est Thomas Jefferson? Est-ce que c'est B, Abraham Lincoln? C, George Washington? Ou D, James Madison, selon toi?
Je m'attendais à Roosevelt. Ça veut pas... Oh là là! Ben, je vais reprendre, renommer le choix de réponse une deuxième fois.
Oui, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington ou James Madison?
Le premier... Hey, puis les gens doivent savoir ça. Puis moi, comment ça se fait que je sais pas ça? C'est... ma langue au chat, Simon, sérieux, là. Je ne peux pas répondre. Je vais répondre A.
Tu vas répondre A, tu vas répondre Thomas Jefferson. Ben non, c'est C, c'est George Washington. C'est
J'ai dit peut-être, j'avais déjà entendu ça quelque part, premier.
C'est un des, c'est un des pères fondateurs, là, des États-Unis d'Amérique, pour ainsi dire. Il a été le premier président. Il a été là en exercice du 30 avril 1789 au 4 mars 1797. Deuxième question, quel président a aboli l'esclavage aux États-Unis? Encore là, un choix de réponse. Est-ce que c'est A, Andrew Johnson? Est-ce que c'est B, Abraham Lincoln? Il revient, celui-là, tiens. Thomas Jefferson ou encore Grover Cleveland?
J'en ai aucune idée, je vais dire Grover Cleveland.
Eh non, c'est Abraham Lincoln.
C'est Lincoln qui a aboli l'esclavage.
Lincoln, Abraham Lincoln, absolument.
Eh bien, ça commence bien parce que j'ai appris aujourd'hui que George Washington est le premier et Abraham Lincoln a aboli l'esclavagisme.
Ben, c'est quand même pas rien, là, je veux dire.
Alors, j'en apprends des choses, hein, ça sert à quelque chose.
Alors, qui parmi les noms suivants présidait les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale? Okay. Est-ce que c'est A, Franklin D. Roosevelt ou Franklin Delano, là, dans sa
Roosevelt, celui que j'avais en tête au début. Moi dire lui.
OK, tu vas dire lui? OK, alors je te donne les autres choix de réponse. Est-ce que c'est B, Lyndon B. Johnson? Est-ce que c'est Herbert Hoover? Ou est-ce que c'est Dwight Eisenhower?
Oh, attends, là, parce que Eisenhower, ça me dit de quoi le nom? Puis Roosevelt aussi, là, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Ben, je vais garder ce que j'avais dit, là, Roosevelt, mais je doute que ce soit Eisenhower.
Ben, t'as bien fait. T'as bien fait parce que
c'est Roosevelt?
Ouais, c'est Franklin Delano Roosevelt qui occupait la présidence américaine au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait débuté son mandat, son premier, le 4 mars 1933, en pleine crise monétaire, là, tu sais, les années noires, là, des États-Unis. Ça avait commencé avec le krach boursier 1929. Il a pris ça, là, en 1933 dans une certaine mesure. Et son terme a fini le 12 avril 1945. Il est celui, d'ailleurs, qui détient le record de la présidence américaine la plus longue, 12 ans, 1 mois, 8 jours pour Franklin Delano Roosevelt.
Eh bien.
Quatrième, quel président a démissionné à cause du scandale du Watergate, une affaire d'espionnage politique? Mm-hmm. Est-ce que c'était A, Gerald Ford, est-ce B, Richard Nixon, C, Jimmy Carter ou D, Lyndon B. Johnson?
Je pense que c'est B ou C, là, c'était qui, B que t'avais dit?
B, c'est Richard Nixon.
C'est soit Richard Nixon ou Carter, je vais dire Nixon.
Ben, t'as raison, raison.
Un point chanceux.
Ben, c'est pas pire, alors
Ça me dit des fois des petits quelque chose, mais ouais, vous aurez remarqué que je ne connais pas l'histoire américaine, incroyable.
Non, mais des fois, il faut suivre son instinct. Hein, t'sais. Alors, ben, Richard Nixon a été effectivement contraint de démissionner le 9 août 1974. On menaçait de le destituer. Il a dit, ben, je peux aussi même m'en aller. Alors, c'est à cause du scandale du Watergate qui s'est étiré de juin 72 jusqu'au mois d'août 74. On vous racontera pas tout ce qui est le scandale du Watergate. Affaire d'espionnage politique, des gens qui se font surprendre dans un bâtiment en train de faire de l'espionnage du parti adverse et tout ça. Bref, Nixon, c'était la bonne réponse. Cinquième question, vrai ou faux? Facile, celle-là.
Ben oui.
Ronald Reagan, vrai ou faux? Ronald Reagan était un acteur avant de devenir président?
Je sais pas. Ronald Reagan, je vais dire... faux.
Tu vas dire faux?
Ben, c'est sûrement vrai.
C'est vrai. T'aurais
il était acteur, Ronald Reagan.
Il était acteur pas mal. À part de ça, il a joué dans pas mal de films et pas mal de séries télé. Alors, il est apparu pour la première fois à l'écran en 1937 en tant qu'acteur. Et il a joué pendant plusieurs années. Il a arrêté au milieu des années 60 à peu près. La dernière, c'est donc de 1937 jusqu'au milieu des années 60, 65, je pense, la dernière série. Donc, c'est à peu près, il a arrêté de faire du cinéma à peu près une quinzaine d'années avant qu'il accède à la présidence américaine en 1981, parce que pendant ces 15 années-là, il s'est fait les dents dans le monde de la politique, pour ainsi dire. Fait 15 ans plus tard, après avoir lâché le métier d'acteur, de comédien, il devenait président des États-Unis. Sixième question, le plus jeune président élu des États-Unis, selon toi, est-ce que c'était A, John F. Kennedy? Est-ce que c'était B, Bill Clinton? C, Theodore Roosevelt? Ou D, Barack Obama?
Le plus jeune.
Ouais, le plus jeune.
Je vais essayer John F. Kennedy.
Ben, t'as bien raison.
Ouais, ça me disait de quoi, là? Il était jeune, lui. J'hésitais entre lui et Clinton, mais Clinton, après ça, je me rappelais de lui avec son saxophone, puis je sais pas trop, puis non.
Ben, il était jeune, mais tu sais, il remarque que c'est assez relatif, là. Si t'as 16-17 ans, ça va paraître un peu mon oncle, mais quand il a commencé, il avait 43 ans. Mm-hmm. 43 ans, 7 mois et 22 jours. Donc, le plus jeune président élu des États-Unis, ça a été John F. Kennedy. Et à l'inverse, on va aller de l'autre bord. Quel a été le président le plus âgé d'entre tous au moment d'entamer un mandat de président?
C'est Joe Biden.
Tu penses?
OK. Sûr.
OK. Ben, tu vas voir avec les choix de réponse. Est-ce que c'est A, Donald J. Trump? Est-ce que c'est B, Lyndon B. Johnson? Est-ce que c'est C, Richard Nixon? Ou est-ce que c'est D, Gerald Ford?
OK, c'est Trump avec son nouveau mandat qu'il vient d'avoir.
Ah, c'est ça, tu vas répondre ça.
Biden n'est pas dans les choix de réponse, avec c'est Trump.
C'est ça, exactement.
J'avais pas réalisé que là, son nouveau mandat, là, il est le plus vieux de tous les temps.
Ouais. Voilà. Donald Trump vient, en commençant le 20 janvier dernier, vient d'établir une nouvelle marque. Mm-hmm. Le président le plus âgé d'entre tous au moment d'entamer un mandat à la présidence. Son second mandat, là, quand il a commencé, 78 ans, 7 mois et 6 jours. Il n'y en avait pas qui avait commencé un mandat à un âge aussi vénérable, entre guillemets.
Mais est-ce qu'en deuxième place, c'était Joe Biden?
Je pense que Joe Biden, oui, était très certain.
Il arrive en deuxième, hein, parce qu'il avait commencé tard dans les années.
76, là, dans ces jours-là, ouais, quelque chose dans le genre. Okay. Alors, huitième question. Mais ça va quand même pas pire jusqu'à date. Ça va
4
pas pire.
Sur 7?
C'est pas pire.
C'est incroyable, incroyable. Je me suis surpris par chance.
Vrai ou faux? Il aura fallu attendre jusqu'au 8e président avant de connaître un premier président né comme étant un citoyen américain. Est-ce que c'est vrai ou faux, ça?
Que les premiers étaient tous pas des citoyens américains pour les présidents américains?
Oui, il fallait attendre au 8e pour avoir quelqu'un qui était un citoyen américain comme président, d'après toi.
On dirait que c'est des questions pièges, les vrais ou faux. On se demande pourquoi il aurait posé la question si la réponse est faux. Tu sais, mais je vais dire faux. Je vais essayer de battre la...
Tu vas essayer de battre les lois de la statistique aujourd'hui.
Ouais, les lois de c'est vrai. Ben, c'est ça. Toutes les questions, vrai ou faux, faudrait que je dise vrai tout le temps. Ça, on dirait que c'est une...
Il s'appelle Martin Van Buren. Il est né dans l'État de New York en 1782. Il a été élu le 8e président américain le 4 mars 1837. Et c'était le premier président à naître comme un citoyen américain. Parce que tous ses prédécesseurs étaient nés sujets britanniques.
Ouais.
Ben c'est ça, la Déclaration d'indépendance 1776. Donc tous ceux qui ont présidé ou qui avaient l'âge de présider après la Déclaration d'indépendance puis qui étaient nés avant, tu sais, du monde de 40, 50, je sais pas trop. Ben eux autres, je veux dire, c'était des citoyens britanniques, des sujets britanniques, mais Martin Van Buren, même si son nom laisse présager des origines, je pense d'Europe, là, si c'est
ouais, ça
pas
fait allemand, un peu.
Néerlandais ou quelque chose dans le genre, en tout cas. Alors, mais lui, il était vraiment né aux États-Unis. Il est né à New York et ça a été donc le premier président de nationalité américaine depuis sa naissance. Spécial, hein? Thomas Jefferson, vrai ou faux, c'est lui qui a acheté la Louisiane à la France.
Je vais dire lui qui a acheté la Louisiane
ouais,
à la
France. C'est lui qui a fait que les États-Unis ont acheté la Louisiane à la France.
Puis c'est un vrai ou faux? Fait que
ouais,
je vais y aller pour vrai, on va essayer.
Ben voilà, t'as bien fait. Alors, vrai. Voilà, si tu pensais qu'il y avait une pointe,
mais c'est le truc.
Alors, Thomas Jefferson a négocié avec Napoléon l'achat de la Louisiane en 1803 et cet achat-là a fait ni plus ni moins que doubler la superficie du pays à l'époque où il a procédé à cet achat-là. Dixième question, il nous reste à peu près 2 minutes. Quel président américain était le plus âgé lorsque prit fin l'un de ses mandats? Là, peut-être que tu vas l'avoir. Joe Biden, Ronald Reagan, George H.W. Bush ou Jimmy Carter. Lequel était le plus âgé quand il a pris fin son mandat?
Je suis certain que c'est Joe Biden.
Ben oui, c'est ça. Joe Biden a terminé son mandat à l'âge de 82 ans et 62 jours. Donc, on l'a
pas
dit tantôt. Alors voilà. Il était, quand il a commencé son mandat, il était vieux, mais il n'était pas autant que Trump là, quand il a commencé en janvier. Vrai ou faux? 11e question. Seuls 4 présidents américains sont décédés en fonction. 2 de maladie et 2 qui ont été assassinés. Il n'y en a 4 qui sont morts en fonction. Vrai ou faux, selon toi?
Je vais dire faux.
T'as raison! Il y en a 8 en tout cas.
Je la voyais venir.
Il y en a 8 qui sont décédés pendant leur mandat. 4, en fait, sont décédés de maladie. 4 autres sont morts assassinés. Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding et Franklin Delano Roosevelt sont tous décédés de maladie. Et Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley et John F. Kennedy, eux autres, ont tous été assassinés. 12e, avant-dernière question, vrai ou faux? Actuellement, il n'y a que 4 anciens présidents américains qui sont toujours vivants. Vrai ou faux, selon toi?
Il y en a peut-être 3. Je vais dire vrai.
Hey, t'as raison. Ben oui, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden et George W. Bush sont les 4 derniers présidents qui sont encore en vie. Le dernier, le 5e pour ainsi dire, c'était Jimmy Carter. Puis il est mort il y a quelques semaines ou mois de ça, le 29 décembre dernier. Il a vécu jusqu'à 100 ans, 2 mois et 28 jours. D'ailleurs, et on va conclure là-dessus, Jimmy Carter, il est non seulement le président américain qui a vécu le plus longtemps, mais il est aussi celui qui a vécu le plus longtemps après la fin de sa présidence. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi?
Hey, puis ça, je l'ai lu quand j'ai parlé de son décès. Je vais faire appel à ma mémoire. C'est lui qui aurait vécu le plus longtemps après sa présidence. Je vais dire vrai.
Ben voilà, tu conclus de brillante façon parce que à son décès, Carter était le président qui a vécu le plus longtemps, oui, on l'a dit tantôt, 100 ans, 2 mois, 28 jours, mais il est aussi celui qui a vécu le plus longtemps après la fin de sa présidence, c'est-à-dire pendant 43 ans, 11 mois et 9 jours. Ça donne combien de bonnes réponses, ça?
9. Je vais regarder combien ça donne en pourcentage. Ça me donne un gros 9 sur 13, 70%, 69%. Ça, c'est la note
bon.
De passage est atteinte.
Ben, c'est très bon. Toi qui pensais que tu ne l'aurais pas, ben bravo, bravo.
J'ai été chanceux. Grâce à la technique du vrai ou faux.
Eh oui, exactement. Tu as réussi à déjouer les pronostics, Sébastien.
Mais merci, Simon, pour tout ce que j'ai appris. Là, franchement, là, je serais prêt pour un quiz sur les présidents américains la prochaine fois. Là, je vais me rappeler de la plupart des choses.
Oui, sauf que la semaine prochaine, c'est toi là, qui vas attaquer le quiz, c'est ça, hein?
Oui, puis je pense que les gens ont compris qu'on se donne pas les sujets avant. Hein? Ça paraissait que je n'étais pas préparé.
Non,
là.
C'est ça, exactement.
On se prend au dépourvu, mais c'est ça toute la beauté de la chose. C'est là qu'on se trouve notre plaisir.
OK, parfait. Alors, on se retrouve la semaine prochaine?
Absolument.
Salut, merci.